Réponse. Monsieur Jones, Monsieur le Président, il est certainement vrai que, jusqu'à présent, un tel baptiste du septième jour, ou un tel adventiste du septième jour, n'est pas connu. Mais si les lois du dimanche sont appliquées avec une clause d'exemption en faveur de ceux qui gardent le septième jour, cela ne sera plus une chose inconnue. Il est également vrai qu'un tel homme ne pourrait devenir membre d'aucune église baptiste du septième jour, ni d'aucune église adventiste du septième jour. Mais qu'est-ce qui empêche les propriétaires de saloons d'organiser leurs propres églises baptistes du septième jour ou adventistes du septième jour? Qu'est-ce qui empêche ces hommes ou toute classe d'hommes d'affaires d'organiser leurs propres églises, d'élire leurs propres clergés et même d'ordonner leurs propres pasteurs et de s'appeler baptistes du septième jour ou adventistes du septième jour? Rien ne l'empêche, à moins que l'État lui-même prenne en charge toutes les églises et doctrines du septième jour, et veille à leur organisation et à l'admission de leurs membres. C'est précisément ce qui a été fait auparavant. Au temps de la théocratie de la Nouvelle-Angleterre, le Massachusetts a promulgué une loi qui, dans l'avenir, aucun homme ne sera admis à la liberté de ce corps politique, mais tels que sont les membres de certaines des églises dans les limites de celui-ci. Il y avait un nombre considérable d'hommes qui n'étaient membres d'aucune église et qui ne pouvaient l'être, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ces hommes ont alors commencé à se constituer en église. L'étape suivante consistait, pour les autorités, à promulguer une loi qui, dans la mesure où il s'est avéré, par une triste expérience, que beaucoup de troubles et de perturbations ont été causés tant à l'Église que vis-à-vis de l'état civil, par les responsables et les membres de certaines églises qui ont été rassemblés de manière indue, il est ordonné que notre cour n'approuve pas et n'approuvera pas à l'avenir les entreprises d'hommes qui seront désormais considérées comme des membres d'Église, sans qu'elles aient au préalable pris connaissance des magistrats et des anciens de la plus grande communauté de l'Église, sans leurs intentions, et qu'elles aient leur approbation. Par ceci, messieurs, vous verrez que l'adoption de cette loi du dimanche, bien que ce ne soit que la première étape, ne sera en aucun cas la dernière étape, et cela dans de nombreuses directions. Leur offre d'une clause d'exemption est l'aveu volontaire que l'application de la loi sans une telle décision serait injuste. Mais si cette clause d'exemption est incorporée et maintenue, l'État est inévitablement amené au-delà de sa propre juridiction. Et si la clause d'exemption est retenue et non maintenue dans toute sa rigueur, l'ensemble de la loi est immédiatement annulé. Le Congrès ferait mieux d'apprendre la sagesse de cette perspective et de refuser absolument d'être en quoi que ce soit concerné par ce sujet. Le projet dans son ensemble est au-delà de la juridiction du pouvoir civil, et le pouvoir civil ne peut rien faire mieux que de le laisser à lui-même. Mais le docteur Lewis propose de se garder de toute difficulté en imposant à chaque observateur du septième jour d'apporter un certificat officiel attestant de sa relation avec une église observant le sabbat. Cela ne mettrait pas fin à la difficulté, car, comme je l'ai montré, il incomberait inévitablement à l'État de décider de ce qui constitue une véritable église observant le sabbat. Mais ce n'est pas le pire aspect de cette suggestion. Si le docteur Lewis représente officiellement la dénomination baptiste du septième jour, et que la dénomination propose ainsi de façon volontaire de les mettre lui et à ses gens en congé, je n'ai aucune objection particulière. C'est leur propre affaire. Pourtant, cela me semble une proposition extrêmement généreuse, sinon extraordinaire. Je dis qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Mais quant à moi et aux adventistes du septième jour en général, non seulement en tant que chrétien, mais également en tant que citoyen américain, nous rejetons avec force et refusons avec un mépris absolu tous les principes d'une telle suggestion. En tant que citoyen des États-Unis et en tant que chrétien, nous refusons totalement et à jamais de nous mettre en congé par une telle proposition. Note. Le fait que mon argument n'était pas, au départ, aussi infondé, ni aussi totalement imaginaire que le supposait le docteur Lewis, a été démontré de manière concluante, même à lui-même, depuis la tenue de cette audience. La colonne Pearl of Days du New York Mail and Express, l'organe officiel de l'American Sunday Union, en mars 1889, renferme la déclaration suivante du Plainfield NJ Times, sans date. En règle générale, Plainfield, New Jersey, est une ville très calme le dimanche. Les magasins d'alcool, de ravitaillement et de cigares sont fermés par l'application d'une ordonnance municipale. Si un résident veut un cigare, il le recevra soit par l'un des nombreux pharmaciens qui refusent de vendre le dimanche, soit il ira chez les deux revendeurs qui sont autorisés à ouvrir leur place le dimanche, car ils observent le samedi comme leur sabbat. Il y a quelque temps, un homme de religion catholique, qui s'intéressait de près aux affaires du dimanche, est devenu un assistant régulier de l'église baptiste du septième jour. Finalement, il a demandé à être admis dans la communauté de l'église. Un membre du comité officiel a été informé que le candidat à l'adhésion ne travaillait que dans un but professionnel. Il a été examiné de près par les officiers de l'église et a finalement admis qu'il souhaitait ouvrir un magasin de cigares et faire des affaires le dimanche. L'homme s'est présenté au mauvais endroit pour obtenir de l'aide dans la réalisation de ses objectifs mercantiles. Il n'a pas été reçu comme membre. Cela ressemble un peu à l'ironie du sort qui tombe sur ceux-là même que le docteur Lewis a représenté et dans la ville même où habite le docteur Lewis.